Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
À travers ton regard, je me découvre.
Regarde ailleurs sur le chemin des différences.
On est sur le festival du Grand Bivouac. Donc j'aime bien venir ici parce que chaque année tu fais de chouettes rencontres. Donc t'as des réalisateurs, des écrivains, des photographes, des voyageurs, beaucoup, plein. Et là je suis avec Mickaël et Anaïs qui projettent Amazonia, voyage en terre indigène. Donc avant de parler du film, je vais m'intéresser un peu à vous. Alors je sais pas qui a envie de commencer, qui es-tu, qui êtes-vous?
Du coup, je m'appelle Anaïs Bageux, je suis la réalisatrice du film Amazonia Voyage en terre indigène. C'est en fait un documentaire qu'on a réalisé à deux en 2013, donc Mickaël Balma et moi, mon compagnon de vie. On est partis 6 mois au Brésil. Le but, c'était du coup de faire un documentaire sur la thématique de la déforestation et des peuples indigènes. On est originaire de Chamonix, en fait, on était conscient qu'il y a un changement climatique en marche. Et du coup, c'était partir de cette région, de notre point d'origine en fait, pour aller voir comment ça se passe en Amazonie, qui est l'une des plus grandes forêts au monde, et de se rendre compte en fait que si elle disparaît, ça va avoir un impact sur le climat mondial. Donc de voir comment les minorités ethniques qui vivent en dépendance avec cette nature qui disparaît s'en sortent aujourd'hui, et l'impact que va avoir également un barrage hydroélectrique qui va être le 3e plus puissant du monde.
Et comment vous avez choisi la destination? Pourquoi l'Amazonie? Il y avait déjà eu des voyages auparavant? Est-ce que vous êtes voyageur avant d'être réalisateur? Quel est le lien avec avec cette famille de voyageurs?
Je suis Mickaël Balma, originaire de Chamonix, et j'ai toujours aimé voyager à petite ou moyenne échelle. Et puis l'Amazonie, c'est un rêve d'enfant. De se retrouver seul au milieu de la forêt avec des immenses arbres, ça m'a toujours donné envie. Et donc l'Amazonie, c'est le projet Amazonia, c'est à la base d'Anaïs, je l'ai rejoint par la suite, et c'est un projet qui m'a beaucoup plu et ça faisait partie aussi de mes rêves de vie.
Mais avec des voyages auparavant en Amazonie, ou c'était vraiment la première fois? Allez, on se dit on y va, on part avec une caméra, on fait un film.
Première fois, effectivement, c'est pas un premier voyage au long cours, mais en l'occurrence c'était la première fois sur le continent sud-américain. Et du coup, effectivement, c'est parti d'une envie en fait, de changement de vie simplement. Avant j'étais dans le commerce, dans le prêt-à-porter, et j'avais pour envie de me recycler et de me diriger vers l'audiovisuel. Ça me paraissait extrêmement compliqué, parce que je n'ai pas fait d'études et que les études me paraissaient très chères et très élitistes. Du coup, je suis partie du principe de me dire « j'aime voyager, j'ai envie de faire des films, je vais monter un projet moi, seul, pour voir de quoi je suis capable. » Et du coup, je change de vie, je change de métier, je change de mec, je change de projet. Et j'avais pour objectif de partir seul pendant 6 mois. Et effectivement, on s'est mis en couple un peu avant de partir et on a vécu cette aventure à deux.
Ça c'est génial, ça c'est hyper inspirant. Donc partant d'un métier, tu t'es rendu compte que t'étais peut-être pas forcément à ta place. Tu t'es donné les moyens et t'as réussi à créer ta réalité finalement, sans avoir fait l'école qui t'a permis de réaliser un film de cinéma.
Alors effectivement, ce projet-là nous a ouvert des portes, dans le sens où on est parti 6 mois, au retour de voyage on avait vraiment cette envie de nous reformer. Et Mickaël du coup a fait une école de menuiserie avec les Compagnons du Devoir, et moi j'ai pu être financée dans une école de cinéma par la suite, grâce en fait au droit individuel de formation, que tout salarié a le droit, c'est juste qu'on en parle très peu. Et que du coup, donc cette courte formation m'a conduit également après à voyager en Inde pour travailler. Et ça, j'ai ensuite pris le temps de bien terminer ce film qui m'a demandé 1 an en fait de montage. Aujourd'hui, il s'est fini en janvier de cette année, il est actuellement en festival depuis 6 mois. Et je suis aujourd'hui à mon compte. Donc effectivement, beaucoup de choses ont changé, plutôt dans la bonne direction.
Et toi, Mickaël, ta vie d'avant, c'était quoi ?
J'étais poseur en revêtement de sol, donc j'en avais un petit peu marre de faire cette tâche, et c'est pour ça que j'ai tout quitté pour partir en Amazonie, pour faire ce beau projet. Et au retour, je me suis formé, fait un CAP de menuiserie, et puis maintenant, ça fait un peu plus d'un an que je travaille en menuiserie, et ça me plaît.
Donc toi, tu as une réorientation, mais toi, tu as réussi maintenant à créer un métier autour de ta passion qui est devenue celle de l'audiovisuel.
Exactement. Donc aujourd'hui, donc depuis 6 mois, je suis réalisatrice, mais en vérité, j'ai plusieurs casquettes. J'écris des scénarios, je réalise, je cadre, je monte. Et du coup, j'essaye maintenant de diriger mon travail vers une communication que je souhaite positive, du coup, pour travailler avec des partenaires qui sont attentifs au développement durable, les qualités de genre, donc des thématiques qui essayent d'aspirer à un monde un peu plus juste. Voilà, parce que finalement, j'ai eu cette question à me dire, moi qui travaillais dans le commerce auparavant, qui était un peu dégoûtée du système de consommation dans lequel on était, en me disant aujourd'hui, je fais plus du film d'entreprise, est-ce que je ne vais pas me retrouver dans ce que j'évitais auparavant? Et finalement, c'est plus une question de dans quelle direction je souhaite aller actuellement. Et voilà, c'est juste un objectif à avoir et je pense qu'il y a quelque chose à creuser par rapport à ça.
Donc ouais, c'est vraiment cette quête de sens, quoi. Remettre du sens dans son quotidien, dans les actes qu'on pose à travers sa vie professionnelle.
C'est ça. Et quoi qu'il en soit, le projet de base nous, le pose à nous personnellement, dans le sens où les thématiques principales sont notamment la déforestation. Ça, le film en soi amène même une réflexion sur notre mode de vie de consommateur au quotidien. Donc finalement, ces questions quotidiennes influent forcément notre vie professionnelle. Et du coup, moi, c'est quelque chose auquel j'aspire continuer.
Allez, on va s'intéresser au projet. Comment est-ce que tu as écrit ce film? Est-ce que tu savais déjà ce que tu allais retrouver sur le terrain? Comment s'est passée la phase de préparation avant de partir, de prendre l'avion avec ta caméra et bosser ensemble sur ce projet?
Alors, ça a demandé 10 mois de préparation avant de partir. Donc, on est parti en juin 2013. Et pendant ces 10 mois, il y a eu au début donc, cette pensée de « je pars seul ». Et c'était très difficile de trouver les informations... en n'étant jamais partie dans ce pays, en ne parlant pas la langue, je ne parlais pas portugais. Et du coup, c'était grappiller sur Internet, sur des forums, au fur et à mesure, jusqu'à ce que en fait, je sois diffusée sur une émission radio appelée Allô la planète, dont les gens m'ont mis en relation eux-mêmes avec un Indien qui avait été interviewé sur leurs ondes. Ils m'ont dit « ce gars-là pourrait éventuellement t'aider ». Effectivement, c'est un Indien du Brésil, aujourd'hui marié à une Belge, qui habite en France et qui m'a beaucoup aidée effectivement, à mieux appréhender le monde indigène. Voilà, donc ça a ouvert beaucoup de portes, effectivement. Après, j'avais plus ou moins une trame. Même avant de partir, nos parents avaient des roadbooks pour dire, voilà, telle personne, on doit le rencontrer plus ou moins à telle période. Eux sont journalistes ou scientifiques ou de telle association. Et effectivement, l'avantage qui a été fait, c'est qu'on a quand même 90% des personnes qu'on devait rencontrer ont été effectivement rencontrées, voire interviewées. Ils font partie de notre film intégrante. Après, ça se passe jamais comme on a prévu. Et là, bon, bah... Il faut toujours essayer d'improviser.
J'ai bien compris, c'est le changement climatique à travers la déforestation. Mais pourquoi avoir arrêté son choix sur l'Amazonie alors que la déforestation peut être aussi, ça peut être en Indonésie, il y a plusieurs pays du monde, quoi. Qu'est-ce qui a fait que ce soit l'Amazonie?
Alors en fait, le projet a beaucoup évolué. De base, je souhaitais un voyage, pas forcément un film, et c'était plus un changement de vie pour partir seule, car je suis jamais partie seule. J'ai toujours été accompagnée de mes copains, et de base, ça devait être un voyage à cheval en Asie. Rien à voir. Voyage en Inde, en Asie. Et je me suis dit, mince, l'Inde, c'est un pays où tu peux même pas faire pipi tranquille derrière un fourré. Il y a des gens de partout. À cheval, ça va être l'angoisse, à part si on part vraiment au nord dans des régions un peu plus désertiques. Donc, je vais peut-être plus partir sur l'Amérique. Et j'étais inspirée par le parcours d'une Française, je crois, qui faisait la traversée des Amériques seule avec ses chevaux. Et j'avais trouvé ça génial. Et il y avait un moment où elle parlait du Costa Rica, que c'était un peu la Suisse américaine, dans le sens où c'était très vert et que c'était génial. Un des pays les plus agréables peut-être pour elle en termes de voyage à cheval. Et il y avait ce côté assez fascinant de forêt tropicale qui m'avait beaucoup intéressée. Et comme disait Mickaël, en fait, c'est aussi un rêve d'enfant de rencontrer, de voir cette forêt de nos propres yeux. Et j'ai eu ce questionnement de me dire, si je pars à cheval et que j'ai envie de voir la forêt, de quelle façon ce sera pertinent pour le cheval d'être dans une forêt? C'est pas un environnement qui est très sain pour lui. Et je me suis dit, bon, ok, mettons peut-être le cheval de côté, t'es peut-être pas assez prête pour ça tout de suite, même si t'as beaucoup fait d'équitation avant. Ça va demander beaucoup de responsabilités, je me sens peut-être pas apte à être responsable d'un animal, surtout si ça va pas. Donc je vais partir seule avec un sac à dos, ça coûtera beaucoup moins cher et ce sera tout autant intéressant. D'où l'intérêt de l'Amazonie, qui, je me suis dit, est beaucoup plus bas, qui aussi est un rêve de... Pardon. Un rêve d'enfant de partir vivre nu avec des Indiens pour voir comment ils vivent, voilà. Et outre ça, il y avait aussi, en tant que femme, un désir de voir dans une société plus primitive, si je puis dire, qui a très peu évolué parce qu'elle est très adaptée à son environnement, de quelle façon, quel rapport ils ont entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'il existe des sociétés plus matriarcales que ce qu'on a vu? Voilà, donc c'était plusieurs points qui se rejoignaient, en fait. Le point d'égalité homme-femme n'est pas abordé dans le film parce que c'est pas forcément ce qu'on a suivi, ce qu'on a vu, mais ça est resté une question principale, en fait, dans la recherche de certaines tribus indigènes.
Donc c'est d'abord vivre une expérience personnelle forte avant d'avoir eu l'idée de réaliser un film.
Oui. Et après, très vite, le film est venu dans le sens où c'était un besoin pour moi de me reformer et qu'on a fait à deux par la suite. Mais oui, bien évidemment.
Okay. Et alors, comment ça se passe quand on arrive là-bas? Mickaël, raconte-moi l'arrivée. Donc là, on prend l'avion, on part pour combien de temps et on va où?
Alors, tout d'abord, l'avion, c'était une grosse galère. Parce que au lieu de mettre 2 jours, parce qu'on avait 2 escales, on a mis 4 jours à arriver. Problème technique au départ. On a loupé notre correspondance par la suite. Et donc on a passé 2 nuits, dans une nuit à Paris et une nuit à Montréal. Donc assez galère. Et après, arrivé à Brasilia, c'était... Gros changement, on est arrivé dans une famille très cool, tout était super bien et on a eu les manifestations à Brasilia qu'ils n'avaient jamais eues. Énorme manifestation contre la Coupe du Monde et Jeux Olympiques qui allaient se passer quelques années plus tard. Barrière de la langue aussi, parce que c'est quand même assez difficile d'arriver dans un pays où on ne parle pas la langue et... où l'anglais n'est pas presque pas. L'anglais est très peu parlé. Donc, assez compliqué. Acheter un téléphone portable, ça a été plus que compliqué. On a eu beaucoup de galères.
Mais là, on est donc à Brasilia, dans la capitale. Mais l'idée, c'est d'aller dans la forêt. Donc, comment est-ce qu'on y va? Est-ce que vous saviez à ce moment-là quelle tribu allait rejoindre? Ou comment est-ce qu'on quitte la capitale pour aller dans un lieu complètement inconnu et hors du temps?
Alors, la tribu, on ne savait pas encore laquelle on pouvait aller voir. On s'était renseigné aussi avec le ministère des Indiens, la FUNAI. Mais c'est très compliqué parce qu'il faut monter un dossier d'énormément de pages pour tout en portugais et savoir quelle tribu, ce qu'on va faire, ce qu'on va filmer, ce qu'on va leur demander. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc on s'est dit qu'on allait partir à Manaus. C'est la capitale de la région d'Amazonie. Et puis on s'est dit qu'on allait voir un petit peu ce qui se passait là-bas parce que vu que c'est au centre de l'Amazonie, il y a la forêt qui est tout autour et on rencontrerait des personnes pour se balader déjà en forêt, pour prendre un petit peu la température et puis voir par la suite comment on pourrait faire.
Et ça marche vraiment comme ça? T'as réussi à vivre cette expérience de vivre nu, entouré d'indigènes?
Oui. Oui, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, bien sûr, parce qu'au fil des rencontres, au fil des objectifs du film, effectivement, on a fait des choses complètement diverses. Comme disait Mickaël, arrivé à Manaus, en fait, on a rencontré un Suisse expatrié là-bas qui avait une association de défense d'un peuple d'Amazonie. Et de fil en aiguille, on a également rencontré un guide en faisant un tour dans la forêt avec un tour opérateur, chose qu'on déteste, mais c'était intéressant de voir comment ils vendaient une forêt primaire à des touristes. Un touriste d'origine guyanaise, donc Guyane anglaise, à côté du Venezuela et du Suriname, où on a fait un tour pendant un mois en fait de trek, à marcher jusqu'à aller voir une cascade qui s'appelle Catcher, qui est très peu connue et en fait itinérant de villages indigènes à des chercheurs d'or et de diamants, jusqu'à aller voir Altamira dans la région du Pará, dans l'état du Pará au Brésil, l'impact du barrage hydroélectrique de Belo Monte, jusqu'à descendre en fait à notre but ultime de rencontre avec une tribu indigène. Et effectivement, jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire au cinquième mois de voyage, on n'avait toujours pas vécu dans une tribu comme on le souhaitait. Et on avait quand même des contacts, notamment sur Facebook, d'Indiens, parce que certains ont Facebook, ça paraît assez difficile à croire. Mais voilà, donc jusqu'au dernier moment où en fait on nous a donné le feu vert, on avait bien expliqué notre démarche. Et c'était pas évident en fait pour nous, sachant que c'était un projet complètement autoproduit, de dire qu'on n'allait pas faire commerce de notre projet, que le but c'était plus une idée de partage, de comprendre comment eux vivent, de quelle façon on peut apporter mutuellement des choses. Et on a choisi cette ethnie notamment parce qu'une association a formé les jeunes au cadrage et au montage vidéo. Et que nous-mêmes, étant amateurs, on avait certainement beaucoup de choses à se raconter. Donc on a été acceptés dans cette tribu-là, pour la faire courte, effectivement, on a vécu 2 semaines parmi eux. Et quoi qu'il en soit, il y a un village qui est en forme de cercle avec plein de maisons traditionnelles en paille qui sont énormes, où une génération entière est en fait vit dedans. Il y a un lac à côté où tout le monde se baigne. Les vieux, les plus jeunes sont complètement nus parce que c'est traditionnel et qu'on n'a pas du tout le même rapport à la nudité, bien évidemment. Donc nous-mêmes, effectivement, pour se laver, on faisait comme tout le monde, on allait se baigner à poil dans le lac, quoi.
Mais là, on est vraiment dans la forêt, loin d'une route, loin d'un commerce, ou bien non, pas du tout. Le côté bucolique, et comme on peut l'imaginer, n'est pas la réalité.
Brésil, tout est loin de tout. Poilas Village, c'est 8 heures de 4x4 sur une piste, ce qui est peu. Par contre, il y a l'avion qui peut venir en une heure de temps, on peut être au village en avion. Donc c'est pas forcément très loin.
Mais comment s'organise un village comme ça, aussi loin de tout? Est-ce qu'il est complètement autonome? Est-ce qu'il y a quand même des liens avec les villages alentours pour, je ne sais pas, des échanges de riz, de céréales, ou est-ce que tout se produit, toute la richesse du village vient du village?
Il y a des échanges entre les villages, il y a des échanges avec la ville aussi, et ils arrivent à gagner de l'argent grâce aux visiteurs. Parce que en général, les personnes qui viennent dans le village doivent débourser entre 7 et 10 000 dollars.
Mais pourquoi? Qui sont les visiteurs? Qu'est-ce qu'ils viennent y faire dans ce village?
Que ce soit anthropologues ou journalistes ou cinéastes, ils viennent et ils doivent donner cet argent pour avoir le droit de filmer, avoir le droit de venir. Nous, on a eu la chance de passer d'avoir été invité par le chef. En expliquant bien le but du projet, c'est de révéler les problématiques qu'ils ont. Et donc c'est pour ça qu'ils nous ont invités et ils ne nous ont pas fait payer.
Celui qui va voir le film Amazonia, voyage en terre indigène, qu'est-ce qui va se passer dans ce film qui dure 75 minutes? Qu'est-ce qu'on va y voir? Quel va être l'univers dans lequel va être plongé le spectateur?
Alors le film est en 3 parties, ça explique en fait, l'introduction explique le pourquoi du comment on est venu ce projet-là, et 3 parties qui est l'importance de la forêt amazonienne, son état aujourd'hui, la situation des peuples indigènes qui est une minorité, notamment avec le gouvernement, et le barrage hydroélectrique. Voilà, globalement c'est ça. Après c'est un documentaire qui se fait complètement subjectif, qui est narré par ma voix et qui explique en fait notre cheminement à nous, notamment l'évolution de nos pensées à travers le voyage jusqu'à notre retour.
Je pense à cette vidéo qui circule sur Facebook où tu vois, c'est peut-être dans la forêt amazonienne, on met les indigènes devant un ordinateur portable où on passe des images d'une fusée Ariane qui décolle, des images de guerre, des images de, je sais pas, de McDo, tout ça. On a l'impression qu'il y a aucun lien et que les gens sont vraiment coupés du monde. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un cliché?
C'est un cliché. Ça s'appelle de la manipulation d'images. C'est notamment, pour pas citer la source, c'est le genre de reportage qui est vendu à des grandes chaînes télé, notamment privées, françaises en l'occurrence, qui ne montre pas quelque chose de faux, mais qui manipule l'image parce que c'est pas tout à fait vrai. Et le problème, c'est que la majorité des gens qui ne sont jamais partis dans cette région du monde ne savent pas forcément ce qui est vrai du faux, et vont forcément croire parce qu'on donne beaucoup de crédit à la télé. Et que ce genre d'image, nous-mêmes, on a été confrontés à ce genre de choses en se disant on a une responsabilité en tant que réalisateur de faire passer un message et du coup une certaine véracité à apporter. De notre regard, comment ne pas déformer une réalité. Et au moment où on a vécu pendant ces deux semaines dans la communauté indigène, on a, la deuxième semaine, vu une équipe de télé coréenne qui est venue également dans ce village pour tourner un documentaire et qui avait une approche totalement différente de la nôtre, qui, eux, ont payé 7000 euros, qui étaient là dans un but précis de, effectivement, tourner un film qui est produit par la télévision coréenne, et qui ont demandé à toute la population d'enlever tout signe de modernité, de scooter, de plastique, etc., pour montrer des bons sauvages qui vivent de manière très romantique, comme on peut l'imaginer et comme on peut fantasmer là-dessus. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de médias, et c'est très problématique, parce que, du coup, ça amène une méconnaissance et une ignorance qui est cultivée, de peuples qu'on veut comme archaïques, comme très primitifs, voilà. Et c'est en fait, c'est ce qui va être d'ailleurs discuté à une conférence ici au Grand Bivouac sur la folklorisation en fait de ces peuples-là. Dans le sens, c'est ce que veulent voir les touristes, c'est ce que veulent voir également les téléspectateurs et nous-mêmes indirectement, sans se mentir, c'est ce qu'on a vu voir aussi en se disant est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce qu'on a envie d'accepter que les choses changent ? Est-ce qu'on est capable d'accepter qu'un Indien peut être moderne et peut rester Indien tout en étant en t-shirt et écouter Rihanna ? C'est plein de questions qui paraissent complètement stupides quand on y pense, mais finalement c'est assez existentiel et ça nous reste en tête tout le long du voyage.
Et donc c'est ce qu'on va voir dans vos documentaires aussi, tu montres cette double réalité ?
Je pense qu'on a été assez juste en tout cas au niveau de la réalité. C'était très important pour moi en tout cas de ne pas mentir là-dessus. Et la voix off le compte assez bien, je pense. Ce qui était important pour moi également, c'était que ce film soit vu notamment par des gens qui connaissent ce milieu-là. Et jusqu'à présent, les retours étaient très positifs parce que ça colle à ce qui est vraiment. Donc je pense que oui, on peut bien se rendre compte de la situation actuelle. Where would I be today without you? Being there for me all my life. What would I do today without you? Taking care of me all the time. Where would I be today without you? Being there for me all my life. What would I do today without you? Taking care of me all the time. Covers my soul while I'm singing this song for you to let you know that everything you did I appreciate, and I know without you I won't be here today. You were always there for me, you are my best friend. Daddy, I know I was unfair sometimes. With this song, I apologize.
Michael, comment est-ce que les rôles étaient répartis sur le terrain en termes de vidéo ? Qui faisait quoi ?
On faisait à peu près tout chacun. On tournait quand il fallait tourner, que ce soit Anaïs ou moi. Pour les interviews, on essayait de poser les questions un petit peu chacun son tour. Et s'occuper de la caméra en même temps. Les prises de vue photographiques, c'était nous deux aussi. Donc ça a été assez bien dispatché. Les rôles n'étaient pas très définis.
Comment est-ce qu'on arrive au Grand Bivouac ? Votre film est projeté ici, mais comment est-ce qu'on en vient à voir son film dans la programmation ?
C'est surtout Anaïs qui a fait toutes les démarches d'inscription au festival et puis tout ça. Donc je trouve ça très beau. C'est beaucoup d'investissement. Et...
Donc toi Anaïs, tu as fait le montage, hein, c'est ça ? Et une fois le film monté, c'est là où tu as commencé à démarcher des festivals pour le présenter ?
Oui, effectivement. En fait, le scénario a été écrit par moi. La voix off, d'ailleurs, c'est la mienne. Et c'est même mon regard qu'on suit plutôt que celui de Michael, sachant que c'était mon projet initial, même si bien évidemment ça a été un travail à deux. Le montage a été fait par mes soins pendant un an, et depuis qu'il est terminé, ouais, un an, parce que le film dure 1h15, quand on n'a pas de budget, bah, ça tout prend du temps, et qu'on se rend compte que faire un film, c'est plusieurs métiers à la fois, et qu'on ne saura pas tout faire. Donc c'était aussi la difficulté de trouver des collaborateurs qui éventuellement pourraient travailler en partenariat, pas forcément payé, donc c'était des annonces sur des groupes Facebook pour dire voilà, j'ai un projet comme celui-ci, je pose les choses à plat, je peux pas vous rémunérer, par contre je peux vous faire un super tiramisu en échange, et ça fonctionne. Bref, et une fois le film terminé, effectivement, il a été en festival. Ça a été soit des rencontres de gens qui au fur et à mesure à force de parler de ce projet-là, des gens qui nous conseillent des festivals, ou même d'office, on nous disait, voilà, ça m'intéresserait de le diffuser. Et après, effectivement, beaucoup d'énergie à trouver des endroits où ils pourraient diffuser, comme aujourd'hui le Grand Bivouac. Donc comment il y a eu effectivement cette... où tout le monde, en fait, s'inscrit en ligne. Après, le film étant long, c'est 75 minutes. Généralement, ils veulent des formats plus courts, mais ici comme ailleurs, finalement. Donc, on a été souvent confrontés à ce genre de choses. Et c'était une réflexion que j'avais eue en amont, de me dire, est-ce que je me formate tout de suite à un 52 minutes, qui est un format télé, ou est-ce que, sachant que je n'ai pas encore diffuseur et que j'ai envie d'une certaine liberté, autant me laisser faire, et c'est ce que j'ai fait actuellement, voilà. Et on a cette chance quand même d'être ici en gardant 75 minutes, donc on est plutôt content.
Et tu as cette volonté aussi de trouver un diffuseur et de le diffuser en télé, ou pas du tout? Tu préfères continuer à le faire tourner en festival?
Quoi qu'il en soit, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Après, j'ai pas conçu ce film pour qu'il soit en télé. C'était plus une idée de quoi je suis capable, de quoi on est capable, parce que c'est une aventure à deux. De voir après comment les choses évoluent. Il a une évolution qu'on ne pensait pas, dans le sens où on pensait plus que c'était un projet perso, qu'il allait tout de suite sur Internet. On se rend compte qu'il y a du potentiel et que ça plaît aussi, ce qui n'est pas rien, et qu'on a été approché par un distributeur qui souhaite le proposer à des chaînes de télé en français à l'étranger. On en arrive par contre à être confronté à ce problème de longueur, donc effectivement je suis en train de réfléchir à le réduire pour avoir un format plus télé. Voilà, donc c'est envisageable, bien sûr.
Ce que je trouve génial dans ton parcours, c'est que du coup, tu as tout appris. Tu as appris à filmer, à monter, à diffuser. Enfin, tu as toutes les casquettes maintenant du métier. Tu les apprends sur le terrain, sur le vif. Donc, c'est vraiment possible. Si on a un rêve, faut le vivre. Il faut changer. Il ne faut pas hésiter à tourner la page pour en créer une autre.
Bah, je pense qu'en fait, quoi que tu fasses dans la vie, si tu as un désir, il n'y aura que toi qui l'auras, il n'y aura pas les autres. On le vit tous d'une certaine façon, qui est la nôtre. Si on a un projet et qu'on n'y croit pas, il n'y a personne qui va y croire pour nous. Donc dans un sens, c'était aussi, soit on n'a qu'une vie et on en profite et on se bouge, même si des fois c'est compliqué, il n'y a rien de facile en soi. On n'est pas forcément avec un entourage qui est conciliant, qui comprend, même si nous, on n'a pas eu vraiment trop de problèmes par rapport à ça. C'est jamais simple de sortir des sentiers battus, entre guillemets. Ça demande toujours beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, et personnel et financier sur bien des points. En l'occurrence, on a eu la chance de le vivre à deux en couple, donc on a pu comprendre et vivre ça ensemble, alors que si on est seul dans un couple, c'est pas forcément simple. Donc pour nous, c'était pas si compliqué, et on a eu quand même des belles conditions. Après, d'apprendre en autodidacte, je pense que de toute façon, on a toute la vie pour apprendre tout. C'est-à-dire que si on est curieux, en fait, on a toujours cette possibilité. Encore aujourd'hui, avec Internet, c'est assez fou, toutes les opportunités qu'on peut avoir. À partir du moment où tu y crois et que tu en veux, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Et maintenant que tu as mis un pied dans cet univers de la réalisation, quelle est la suite? Est-ce que tu as cette envie de voyage? J'imagine que oui.
Actuellement, du coup, je fais des films d'entreprise, tout en essayant de diriger mon travail vers une communication positive avec des partenaires sensibles à l'environnement, à l'égalité de genre, etc. Mais j'ai envie de continuer dans le documentaire, c'est certain. Ça demande par contre beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Et cette fois, j'ai plus envie d'être dans de l'autoproduction. J'ai besoin, une fois que maintenant que j'ai touché ça du doigt, 4 ans de ma vie à mettre de côté, c'est bien, mais... il faut aussi faut payer un loyer, il faut manger comme tout le monde. Donc oui, des projets, il y en a plein. Maintenant, on va voir comment ce film évolue, notamment en festival, avant de se pencher vers un prochain projet, cette fois, Inch'Allah, qui sera produit par une boîte de prod. Alors le site internet, ça s'appelle La Tribu des Sauvages. C'est en fait le nom de mon entreprise et de l'association qu'on est en train de créer pour la diffusion de ce film. On trouvera toutes les infos. En page Facebook, on a aussi La Tribu des Sauvages, ou alors Amazonia, Voyage en Terre Indigène, le titre du film.
Merci à tous les deux.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
À travers ton regard, je me découvre. Regarde ailleurs sur le chemin des différences.